Quand Dieu appelle Abraham à quitter son pays, sa patrie et la maison de son père pour se rendre dans le pays de Canaan, il lui promet d'être une source de bénédiction pour toutes les nations. Plus tard, l'Éternel dit à Abraham, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Des siècles plus tard, quand la postérité d'Abraham est devenue une nation, Israël s'est multiplié, est devenu esclave de Pharaon en Égypte, le peuple continuait de s'accroître. Car plus on l'accablait, nous dit l'Écriture, plus il multipliait et s'accroissait. À cette époque, Dieu appelle Moïse à libérer Israël de l'esclavage de l'Égypte, et nous connaissons le récit des 10 plaies infligées à Pharaon, avant de laisser partir le peuple à travers le miracle de la mer Rouge. Le peuple sorti d'Égypte représentait environ 2 millions de personnes. Alors, pour que le bon ordre règne au sein de ce peuple aussi nombreux et en assure la pérennité, Dieu donne à Moïse les 10 commandements gravés sur 2 pierres qui permettent, par la loi de Dieu, de marcher dans la volonté du Seigneur. En plus, durant le temps passé au désert, l'Éternel établit un certain nombre de règles pour le plus grand bien de son peuple. Et parmi ces règles, il y a aussi des promesses, et je retiens l'une d'elles qui servira de notre méditation de ce matin. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre du Lévitique, Lévitique chapitre 25, nous lirons les versets 18 à 22. Lévitique 25, versets 18 à 22. C'est Dieu qui parle à son peuple. Mettez mes lois en pratique. Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Je souligne ces mots, Dieu dit 2 fois dans ce texte, vous habiterez en sécurité. Et puis on lit aussi le psaume 4. Psaume 4. Voilà. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand ils abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Et c'est ce dernier verset que je relis à Lévitique 25 qui nous parle de sécurité. Presque chaque jour, les médias nous font état d'un attentat, d'une fusillade ou d'actes de violence qui mettent en péril notre sécurité. La sécurité ou l'insécurité est un problème dont on parle tous les jours. Et le sentiment d'insécurité est croissant dans le monde entier. Près de nous, bien sûr, en France, mais aussi en Suisse, le sentiment d'insécurité augmente de jour en jour. Les menaces terroristes, les attentats, les agressions, la délinquance, les incivilités et autres causes d'ennui expliquent ce sentiment croissant d'insécurité. L'insécurité touche une multitude de sphères. Il y a l'insécurité dans la rue, dans les quartiers chauds et sombres des villes. Il y a l'insécurité dans les lieux publics, on le voit même dans les écoles ou dans les stades, avec l'hooliganisme, dans le commerce, avec les vols, les braquages. Il y a même l'insécurité dans les transports publics, parce que des gens se font agresser dans un tram ou dans un bus. L'insécurité pour les enfants, victimes de pédophiles. L'insécurité pour les aînés, parce que plus vulnérables et fragiles, ils sont souvent la visée d'attaques sournoises. L'insécurité pour les femmes, souvent victimes de harcèlement et d'agressions. L'insécurité physique, la maladie. Et il y a des maladies de plus en plus sournoises qui détruisent le corps humain. Même l'insécurité dans votre appartement ou dans votre maison. Il y a plus de 40 000 cambriolages par année en Suisse. Et vous ne savez pas si votre maison, votre appartement aura subi une infraction quand vous rentrerez chez vous. Puis l'insécurité existe au travail, elle existe sur les routes, en montagne, en promenade, en voyage. Et que provoque l'insécurité? Elle génère la peur. Peur d'être volé, peur d'être détroussé, peur d'être cambriolé, peur d'être blessé, peur d'être handicapé, peur d'être sans défense face à des méchants. Et qui d'entre nous n'a jamais eu peur ou n'a jamais peur? Peur de la mort. On parlait de cela, peur du terrorisme, du chômage, peur de l'étranger, mais aussi de ce que l'on mange, de ce que l'on boit, peur également de la maladie, de la souffrance, de la vieillesse, de la séparation, peur de l'inconnu. Bref, on n'en finit pas d'avoir peur, d'angoisser. Nous vivons dans un monde envahi par la peur. On a peur des araignées, des souris, des serpents, du dentiste. Il y a des gens qui ont peur de tout. Quand on est jeune et fort, pas grand-chose nous fait peur. Quand je pense à des choses que j'ai faites étant jeune, j'en ai parfois un peu des frissons. Je n'avais pas peur. Un peu moins jeune aujourd'hui, je suis moins sûr de moi, je suis plus fragile avec l'âge, j'ai moins de ressources physiques et beaucoup plus de choses me font peur. On dit parfois de quelqu'un qu'il n'a peur de rien, mais c'est figuratif parce que tout être humain connaît ou a connu la peur une fois ou l'autre. Alors, rappelons-nous ce que nous venons de lire. Vous habiterez en sécurité dans le pays, dit l'Éternel. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité. Que ces paroles sont bienfaisantes et rassurantes. Pouvons-nous imaginer un monde sans peur, sans terreur, sans inquiétude, sans crainte, sans angoisse? Pouvons-nous concevoir un monde où la peur n'existe pas, où la sécurité est absolue? Pas de risque d'agression, de vol, de cambriolage, pas d'accident de la route, pas d'inondation, pas de réchauffement planétaire, pas de cyclone, etc., etc. Vous aimeriez, vous, connaître une société où personne n'a peur du cancer, de l'infarctus, du sida, de la mort? Vous aimeriez une communauté internationale sans la peur du chômage, sans krach financier, sans crise pétrolière, sans menace de guerre ou de terrorisme? Un monde où rien ne nous fait peur. Ni le gendarme, ni les escrocs, ni les voleurs, ni les violeurs. Et réfléchissez un instant, et je vais vous le dire, ça a existé. Je connais un couple qui habitait un endroit magnifique, loin de tout, et qui vivait dans la sécurité la plus totale. Mais vous les connaissez aussi si vous lisez la Bible. Ils s'appellent Adam et Ève. Avant la chute, avant que le péché entre dans le monde, la peur n'existait pas. Hommes et femmes ne connaissaient pas l'angoisse. Ils vivaient en pleine sécurité. Adam était placé dans un jardin magnifique en Éden pour le cultiver. Comme il était tout seul, Dieu lui fait don d'une aide semblable, Ève, avec laquelle il va partager les bénédictions que le Créateur leur accorde. Et à ce moment-là, la peur et l'angoisse sont inexistantes dans la vie de l'homme et de sa femme. Dieu voulait que ces créatures vivent un univers parfait, sans peur ni angoisse, en toute sécurité, dans l'abondance des biens de cette terre. Voilà ce que vivaient nos premiers parents, Adam et Ève. Mais voilà, nous connaissons la suite de l'histoire. Et ça n'a pas duré. À un moment donné, tout a basculé. Quand l'homme et la femme se sont laissés séduire par le diable. Et c'est là que l'on trouve, dans la Bible, l'origine de la peur. L'insécurité provoque la peur, mais d'où vient-elle? La peur n'est pas un sentiment ressenti en l'homme depuis toujours. La peur a un point de départ dans l'histoire de l'humanité, et la première mention de la peur se trouve dans Genèse chapitre 3. Et là, nous lisons quelques versets ensemble, les 13 premiers versets de Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » J'ai eu peur parce que je suis nu et que je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » En lisant ce texte, vous pouvez remarquer qu'Ève n'avait pas peur du serpent. Elle écoute le serpent, lui répond, dialogue avec lui. Jusque-là, Adam et Ève n'avaient aucune peur, ni des animaux, ni des éléments naturels, ni du grand Dieu souverain, créateur des cieux et de la terre. Ils n'avaient aucun danger nulle part. Et quand ils entendent la voix de Dieu, ils se réjouissent. C'était le comble de leur bonheur. La peur apparaît suite à la désobéissance d'Adam et Ève lorsqu'ils ont consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le péché entrant dans la vie de l'homme fait naître la peur. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Le monde animal est aussi touché par la peur. En général, l'animal a peur de l'homme. Même les animaux se font peur entre eux. Les félins attaquent souvent d'autres animaux plus faibles, etc. Qu'est-ce que la peur? Selon le dictionnaire, c'est un sentiment d'inquiétude ou de frayeur face ou à la pensée d'un danger. Elle peut prendre sa source dans la réalité ou dans l'imaginaire, dans un émotionnel mal contrôlé, sentiment d'insécurité, traumatisme de l'enfance, choc émotionnel. La peur peut revêtir différentes formes et atteindre différents degrés. Elle peut n'être qu'une simple inquiétude ou atteindre son paroxysme dans la frayeur ou la terreur, voire l'épouvante. Le péché a eu donc des conséquences terribles. Et l'une d'entre elles fut la naissance de la peur. Quand ce sentiment a gagné l'âme d'Adam, il a pris la fuite pour se cacher. Le Dieu trois fois saint pose alors cette question : Où es-tu ? J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. La réponse d'Adam, elle peut se diviser en trois parties. J'ai eu peur, c'est une émotion nouvelle et inconnue. Parce que je suis nu, c'est une découverte affligeante, et je me suis caché, c'est une stratégie éphémère, parce que on peut rien cacher à Dieu. Alors bien sûr, les conséquences de la peur provoquent l'insécurité. Elles poussent Adam et Ève à se cacher. Ils croient échapper à Dieu, ils oublient que Dieu est Dieu. Souvenons-nous toujours de cette parole de Jérémie. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie ? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ? Dit l'Éternel. Et celle des Hébreux. Nulle créature n'est cachée devant lui, car tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu, qui était l'ami d'Adam et Ève, devient redoutable et fait peur. Je me rappelle d'une jeune femme avec qui on avait parlé de l'Évangile et puis qui était très intéressée et qui me dit « Tu comprends, je crois que je joue à cache-cache avec Dieu. » Alors je lui ai dit « Arrête, tu vas perdre. On ne peut pas jouer à cache-cache avec Dieu. » Dieu nous voit partout, à chaque instant, à chaque seconde, à chaque lieu. Enfant, bien sûr, on se cachait lorsqu'on faisait des bêtises ou qu'on avait désobéi, qu'on avait fait quelque chose de mal, de peur des représailles qui nous poussaient à disparaître sous la table ou sous une chaise ou dans notre chambre. Et aucun de nous n'échappe totalement à la peur. Depuis notre tendre enfance, nous sommes prisonniers de la peur et elle peut nous tenir captives et parfois nous tyranniser. Alors, comment gérer et vaincre nos peurs? Tout bébé, les enfants font des cauchemars et sont terrorisés dans leur lit. Et l'arrivée de papa ou de maman les apaise et les arrache à l'insécurité. Là, ils sont bien, papa et maman sont là. Est-ce que vous vous souvenez de la plus grosse frayeur que vous avez eue dans votre vie? Enfant, nous habitions, ben justement, à Genève, dans une maison dont le rez-de-chaussée avait été cambriolé. Et le soir, j'avais une peur terrible de traverser le corridor parce que je croyais rencontrer les cambrioleurs tous les soirs. Et parfois, mon papa m'envoyait au coin de la rue poster du courrier. Il faisait nuit, j'avais tellement peur que je courais comme un fou jusqu'à la boîte aux lettres, je revenais à la maison et je me sentais en sécurité que lorsque je me trouvais derrière la porte fermée de l'appartement. Dans ces moments-là, je crois que j'ai battu le record du 100 mètres de Zandbolt. La Bible mentionne plusieurs exemples d'hommes ou de femmes saisis par la peur ou la crainte. À deux reprises, Abraham a menti en disant de sa femme que c'était sa sœur parce qu'il avait peur qu'on la lui prenne. Il avait peur qu'on la lui prenne. Jacob a connu la frayeur au moment de rencontrer son frère Ésaü avec qui il avait eu quelques problèmes parce qu'il l'avait trompé. David, connu pour sa vaillance et son courage, était dans une grande angoisse lorsque les Amalécites ont brûlé Tsiklag, une ville, en faisant prisonniers femmes et enfants. Les disciples dans la tempête sur la mer, ils avaient peur. Les mêmes disciples dans la chambre haute, le soir de la résurrection. Il est dit, c'était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient enfermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » La présence de Jésus enlève la peur et amène la paix. Alors bien sûr, comment est-ce qu'on va gérer, en tant que disciple de Jésus, comment gérer et vaincre nos peurs? Comment faire face à l'insécurité? Bon, on peut quand même faire attention et éviter des situations dangereuses. La sagesse et le bon sens devraient nous empêcher de nous exposer sciemment à des risques ou à des dangers. Ah ben, bien sûr, si vous avez peur des serpents dont je parlais tout à l'heure ou des araignées, vous pouvez éviter de vous rendre dans un vivarium. Si les chauves-souris vous effraient, n'allez pas dans une caverne la nuit. Si l'avion vous plonge dans l'incertitude et que vous n'êtes pas obligé de le prendre, restez à la maison. Et si les téléphériques vous rendent malade, mais montez à pied sur les sommets. Ça va aussi. Alors nous pouvons gérer notre peur en plaçant notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant. La promesse faite à Israël dans le livre des Lévitiques, que nous avons lu tout à l'heure, est valable pour le peuple de Dieu racheté par le sang de Christ. Vous avez remarqué, cette promesse de sécurité est assortie d'une condition. « Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays. » Mettre en pratique la parole de Dieu, les commandements de Dieu, les lois et les ordonnances nous garantit la sécurité. Je vais développer. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre les lois en pratique? Mais tout simplement, obéir à Dieu. Obéir. Alors, c'est facile à dire, c'est des fois plus difficile à faire. L'obéissance est facile à comprendre. Mais les racines d'un cœur rebelle subsistent encore en nous et nous avons tellement de peine à obéir. Ça veut dire que si nous marchons dans la désobéissance, nous nous exposons à l'insécurité. L'insécurité, elle peut être physique, elle peut être matérielle, elle peut être morale, elle peut être spirituelle. Voyez-vous, chaque hiver, il y a des milliers de personnes qui dévalent les pistes de ski de nos stations. Et pour certains, la tentation de faire une belle trace unique dans une pente de neige vierge est irrésistible. Sauf que, à certains endroits, des panneaux, des barrières indiquent « attention, danger d'avalanche ». Ça veut dire que lorsqu'un skieur méprise l'avertissement, ou entre guillemets, le commandement, il n'est plus en sécurité. De même, lorsque nous tombons dans la désobéissance au Seigneur, nous ne sommes plus en sécurité. En dehors du nom et du sang de Jésus, nous sommes exposés à toutes les attaques et ruses de Satan. C'est pourquoi Paul a écrit « Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Chaque fois qu'Israël a désobéi à son Dieu, ça a été la catastrophe. Et ça recommence des dizaines de fois dans l'Écriture. Lisez les rois, lisez les juges. C'est impressionnant de voir la dureté du cœur de ces Israélites qui n'obéissent pas à Dieu et qui se tournent vers des idoles, vers des faux dieux. La désobéissance à Dieu se paye cash. Cela a conduit le peuple de Dieu à la déportation, à la destruction de la ville sainte et de son temple, Jérusalem. Comme on en a parlé au début, nous vivons dans un monde de plus en plus dangereux, qui nous plonge dans l'insécurité. Mais par la grâce et le secours de Dieu, nous pouvons vaincre nos peurs et vivre en sécurité. Je l'ai cité tout à l'heure, les disciples étaient morts de peur sur la mer de Galilée lorsque la tempête s'est abattue. Et Jésus intervient et leur dit « Mais pourquoi avez-vous peur ?» Jean, de peu de foi. Alors il se leva, menaça le vent, la mer, il y eut un grand calme. Combien de fois dans nos vies, il y a eu des tempêtes. Et quand nous avons placé notre confiance en Jésus, le calme est revenu. Le psaume 27 nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Et puis, les paroles du psaume 4. « Toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité de ma demeure. » Comme enfant de Dieu, disciple de Jésus, nous le savons, notre sécurité va bien au-delà de l'insécurité temporelle. David disait déjà de Dieu, « L'Éternel a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. » Par la mort de Jésus et son sang versé à la croix, nous sommes au bénéfice d'une sécurité éternelle. Plus personne ne pourra prendre votre vie pour en faire autre chose que celle d'un enfant de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est la sécurité. Paul écrivait aux Romains, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Vous connaissez ce passage, sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Nos contemporains, on le sent, sont très inquiets pour leur sécurité temporelle. Mais nombreux ceux qui ressentent, peu nombreux sont ceux qui ressentent une insécurité par rapport à l'éternité. Et finalement, peu se soucient de cette sécurité. Si vous êtes parent, c'est vrai qu'il y a des raisons de vous inquiéter pour l'avenir de vos enfants. Les attaques terroristes ne font pas de différence entre adultes et enfants, adolescents ou jeunes. Les attentats touchent les écoles, elles touchent les universités, les rassemblements de jeunes, les festivals, les concerts, les manifestations sportives ou autres. J'ai trouvé intéressant la remarque d'une femme de Dieu, la fille de Billy Graham, l'évangéliste bien connu, Anne Graham Lotz, qui a déclaré que pour vraiment garder les enfants en sécurité, il est important pour les parents de leur apprendre la vérité. La vérité d'un monde dangereux et d'un Dieu d'amour. Bien que nous puissions être extrêmement vigilants alors que nous pouvons regarder et prier, nous ne garantissons pas que nos enfants ou nos petits-enfants échapperont à la violence et au désastre, a déclaré la fille de Billy Graham dans une publication récente. Mais il y a une chose que nous pouvons faire, que je n'ai pas entendu les experts nationaux discuter. Nous pouvons nous assurer que nos enfants seront en sécurité dans l'éternité, dans les murs de 200 pieds qui entourent notre maison du Père, sûr pour toujours. Comment exactement peut-on faire cela? Graham Lotz conseille d'enseigner aux enfants et aux petits-enfants la vérité. Et la vérité, c'est que nous vivons dans un monde très méchant et dangereux, a-t-elle dit, mais Dieu sait cela, et Dieu aime nos enfants et a envoyé son propre Fils pour les sauver. S'ils mettaient leur confiance dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui demandant de pardonner leurs péchés et d'entrer dans leur cœur, ils deviendraient ses enfants, ils seraient leur père. Cela nous rappelle notre mission de disciples de Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le chrétien marche par la foi. Ainsi, nous plaçons notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant pour le présent et pour l'avenir. Eh bien, chers frères et sœurs, chers amis, que dans ce monde méchant et dangereux, nous puissions affirmer et proclamer notre foi dans le Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. Amen.